abandonner les mutilations génitales féminines sur FM.
Une série de documentaires radio sur l'excision. Les femmes en marge.
Luna criait ainsi. Ne venez pas, ne venez pas, les autres ne venez pas. Ils ont coupé mon clitoris. Voilà le sang qui coule. Voilà l'hémorragie, pof, il s'est tombé. S'il voit seulement le sang couler, et il prenait la fuite. C'est ça. Les autres qui ont entendu ça, et ils ont pris la fuite. Ils disent non, nous ne serons plus excisés. C'est ça. Ça, c'était dans les années 70. Ils sont partis et ils ont pris la fuite, aller dans un autre village. Et aller dire là-bas au chef du village. Le chef du village, il faut venir parler à nos parents. Ils ont pris une fille entre nous, aller l'exciser. Il y a le sang qui sort. Cette fille-là a pleuré. Ne venez plus les autres. Ils ont coupé mon clitoris. Le sang sort. Le chef du village est venu maintenant faire une réunion avec leurs parents. Il faut laisser les filles-là. Il faut les laisser, il ne faut jamais les toucher encore. Si celui qui va toucher cette fille-là encore, je vais les amener chez les gendarmes. Ils ont laissé ces filles-là. C'était 15 filles.
L'histoire que nous relate Fatimata dans le cercle de Diola à 160 km à l'est de Bamako est toujours d'actualité.
Et avant, nos grand-mères passées là, et il disait, si une femme n'est pas excisée, les petits là, ils parlent, si tu es marié à deux maintenant, l'une excisée, l'autre n'est pas excisée, l'autre te dit, tu es blakourou. Tu vois? Bon, en te disant blakourou là, c'est ce qui a amené l'excision là, physiquement.
Blakourou, c'est ainsi que les Maliens désignent les femmes non excisées. Aujourd'hui, dans certains villages de la commune de Diola, on a abandonné les pratiques de l'excision. Mais dans le reste du pays, Blakourou continue de constituer une offense très grave. Et c'est souvent la honte ou la peur d'être marginalisé qui empêche l'abandon de l'excision.
Moi, personnellement, je les comprends. Pour avoir subi l'excision quand j'étais déjà grande, j'ai eu là quand même, je ne sais pas si c'était une chance, j'ai grandi, je n'étais pas excisée. Donc je me mets à la place de ces femmes, de ces hommes qui pense que l'excision est une obligation pour quitter l'étape enfance à l'étape adulte. Et c'est ce que moi j'avais pensé quand j'avais 16 ans. Parce que pour moi, il fallait le faire pour être comme les autres. Donc, j'ai demandé à être excisée. J'ai demandé, non, on m'excise ou bien je ne vais plus au champ. Donc, c'est ce qui me permet souvent de les comprendre et de dire qu'il faut du temps. Parce que le jour de mon excision, j'ai eu une hémorragie. Vraiment, c'était fort, mais je pensais qu'il fallait tout ça. Et toute fille excisée devait faire ça. C'était ma compréhension de la chose. Mais j'ai vu tous les gens, les vieilles, les vieux, tout le monde courait avec son produit et j'ai pu survivre. Donc maintenant, pour moi, c'était un acquis qui m'a permis de sensibiliser ma famille, surtout ma maman. Et au village, avec les enfants de mes frères, je suis en train de me battre. Je n'ai pas encore pu sauver toutes mes nièces, parce que surtout que je ne suis pas là au village, mais j'ai pu sauver certaines. Donc, c'est mon expérience personnelle, et c'est moi. Et quand j'en parle, souvent, j'ai chaud.
Quand Jeanne d'Arc parle de son expérience, elle est accablée. Non excisée jusqu'à 16 ans, elle se sentait marginalisée. Aujourd'hui, elle est engagée dans la lutte contre l'excision et elle travaille au centre Djoliba, une structure qui lutte pour la promotion des droits de la femme à Bamako.
Attends,
Au Mali ou au Burkina Faso, les réalités sont les mêmes.
Moi, je suis Mariam Lamizana.
Madame Lamizana est une pionnière de la lutte contre les pratiques de l'excision.
Et j'ai engagé ma vie autour de cette question parce que bon, c'est vraiment quelque chose, j'y crois, j'en ai fait une question personnelle en tout cas.
L'un de ses premiers obstacles dans sa lutte a été sa famille.
J'ai fait une réunion de famille, j'ai dit à mon papa, il faut réunir toute la famille, tout ça. Donc les parents pensaient que c'était des bénédictions que je voulais. Donc quand on a réuni le beau stade, j'ai dit, moi, j'ai pas pu faire échapper mes petites soeurs. J'ai dit, mais celle-là, c'est pour moi. C'est lui qui touche à cette personne. C'est lui qui l'aurait accepté que ça se fasse sous son toit. C'est lui qui aurait cherché les excisés. Toutes les personnes qui auraient contribué à l'opération, parce que celle qui va chercher l'eau, qui attrape, qui te soigne, qui... J'ai dit, toutes ces personnes qui auraient contribué à l'opération, je vous envoie à la police. J'ai vu, je vous trimballe devant la justice. Donc, ma fille a été sauvée.
Grâce à son courage, Madame Lamizana a réussi à sauver sa fille.
Mais
le risque de marginalisation est toujours présent.
Pendant sa jeunesse, quand il avait peut-être 6 ans, 7 ans comme ça, son groupe de génération, les filles étaient excisées. Elle était parmi celles qui n'étaient pas excisées. J'allais dire qu'elle était unique dans le groupe. Les autres étaient excisées. Et donc, on se moquait d'elle. Pour dire, quand on l'appelle, on dit, ah, une telle vient avec ton clitoris. Ah, une telle lève, viens avec ton... Vous voyez un peu dans la mentalité. Et un jour, ma fille m'a dit, maman, moi, je vais être excisée parce que les autres se moquent de moi. Je lui ai dit, laisse. Un jour, tu me remercieras du fait que tu n'as pas été excisée. Et ma fille, elle s'est mariée. Et à son premier accouchement, on était dans la salle d'accouchement. L'accouchement s'est fait comme ça. L'enfant est sorti comme un poisson qui sort de l'eau. Et tout le monde a applaudi. On a dit bravo, bravo.
Au Burkina Faso, depuis 1996, il y a une loi qui condamne l'excision. Les transgresseurs risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 150 000 à 900 000 francs CFA. Malgré l'existence de cette loi, beaucoup de filles sont toujours victimes des pratiques de l'excision. Dans de nombreuses familles ou communautés, on continue de penser qu'une fille non excisée n'est pas une vraie femme et par conséquent n'aura pas un mari. Cependant, lorsqu'on est excisé, la marginalisation peut prendre des proportions beaucoup plus grandes.
Quand une femme arrive ici, nous avons ce qu'on appelle une femme et son histoire.
Au Burkina Faso, la Fondation Rama est une structure, par exemple, qui accueille des femmes marginalisées du fait de la fistule obstétricale, l'une des conséquences des mutilations génitales féminines. Madame Kabrira Smata, présidente de la Fondation Rama.
Qu'est-ce qui amène la fistule? Le plus souvent, c'est des femmes qui ont des séquelles de l'excision. On a tout raclé, les deux lèvres. Il y a un tout petit trou qui est là, tout juste pour faire le pipi. Tout juste là où le mari peut pénétrer pour des rapports sexuels. Et une fois que cette femme tombe enceinte, est-ce qu'elle peut accoucher? Elle ne peut pas accoucher. Le temps de se rendre compte, la tête est fléchie, bien fléchie, appuyée entre le rectum et la vessie. On amène la femme dans un centre médical avec antenne chirurgicale. On a le temps seulement de sauver la maman. Le bébé est déjà parti. Et comme le bébé est déjà mort, la tête qui était bien fléchie, qui a appuyé le rectum et la vessie, ses tissus molles sont déjà pourris. Et quand la femme maintenant se lève, soit c'est les urines qui coulent, soit c'est les selles qui coulent, ou bien c'est les deux, les selles et les urines qui coulent.
La Fondation Rama à Ouagadougou ne dispose pas d'un grand espace pour héberger les victimes de fistules obstétricales. Il y a des jours même, nous dit Madame Cabré, où le nombre de femmes excède la cinquantaine. Parmi elles, Catherine Tiendrebego, que nous avons rencontrée.
Bonjour, maman. Bonjour, maman. C'est la maladie, la fistule qui m'a amenée ici. Cela est survenu suite à l'accouchement. Le travail a duré 4 jours avant la délivrance. Mon mari a essayé de me soigner, mais comme ça n'a pas réussi, il m'a laissé et est reparti en Côte d'Ivoire. Il a pris une autre femme et ils sont là-bas. Cela vaut 10 ans maintenant. Dans cet état, on se sent différent des autres. On est obligé de rester à la maison pour ne pas les indisposer à cause des odeurs.
Dans leur vie quotidienne, avant d'arriver ici, elles sont isolées carrément. Elles n'ont pas le droit d'aller à un baptême, d'aller à un mariage. Et même pour aller au puits chercher l'eau, il faut attendre la nuit pour aller. Même pour aller écraser le mil, il faut attendre chaque fois qu'il n'y ait plus une femme là-bas avant d'aller. Même pour aller en brousse chercher le bois, elles partent seules, elles n'ont pas de copines. Elles sont isolées, elles ne partent pas au marché, nulle part. Celles qui sont catholiques, elles ne partent pas à la messe, elles sont chez elles. Donc c'est ça, leur vie. Elles sont toutes seules. Oui, seule. Il y a une dame qui nous a confié. Elle a eu la chance, elle a eu un enfant qui a survécu. Mais elle, sa maison, on l'avait mise de côté. Et quand ses belles filles préparent, chacune, quand elle vient, elle attrape son nez, elle tourne son visage, et puis elle vient poser ça comme ça. Et puis elle court. Parce que ça sent mauvais. Si elle mange le reste, il faut qu'elle jette. Personne ne veut manger. Personne ne veut manger. Même si elle part puiser l'eau, elle vient mettre dans le canari, personne ne touche à ça. C'est elle seule qui doit l'utiliser. Leur vie est vraiment dure. Très, très dure. Ces femmes sont rejetées. Pourquoi ces femmes sont rejetées?
C'est maintenant que je me dis que si je n'avais pas subi cette pratique, peut-être que j'allais mieux vivre. J'aurais tous mes organes, et puis, vous voyez tout ça.
Abandonner les mutilations génitales féminines excision sur FM est un projet coordonné par AIDOS en partenariat avec AudioDoc et le Centre pour le bien-être des femmes.
Financé par l'UNFPA et l'UNICEF dans le cadre du réseau STREAM et Stop FGMC.